Chers auditeurs de Radio Maria, nous retrouvons le docteur Pascal Pissouchet pour l'émission Maternité blessée. Aujourd'hui, nous vous proposons un chemin de miséricorde au sanctuaire de Montlijon pour les 40 ans de Mère de Miséricorde. Et nous entendrons le témoignage de Laetitia. Docteur Pascal Pissouchet et Laetitia, bonjour à toutes les deux.
Bonjour Sandra, bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bonjour Laetitia. Alors aujourd'hui, il me tient à cœur de vous partager l'histoire de Laetitia, une amie rencontrée au cours des 40 ans de Mère de Miséricorde, un grand moment d'anniversaire pour célébrer les vies sauvées, les familles et les personnes restaurées. Pour rappel, Mère de Miséricorde est une fraternité qui accompagne, accueille, écoute et soutient toute personne, femme, homme, couple, confronté à une épreuve d'accueil de la vie ou au deuil d'un enfant qui n'a pas vu le jour. Importante est pour cette association la composante miséricordieuse dans les diverses sessions et chemins de consolation proposés, et cela dans un profond respect pour l'histoire des personnes accompagnées, en particulier dans les moments d'angoisse, de solitude ou de peur. Par leur bienveillance, essentiellement par la présence de bénévoles, Mère de Miséricorde se donne la mission d'apaiser ou de consoler les souffrances exprimées par la perte de ses petits dans l'accueil de la vie. Et cela, depuis son commencement jusqu'à son terme naturel. Cet accompagnement du deuil périnatal dans l'amour et la sollicitude est essentiel pour toute paternité ou maternité blessée par cet événement et dont la souffrance peut être trop lourde à porter. Durant ces 3 jours où nous fêtions la vie au sanctuaire de Montlijon, je fus conviée à partager dans un climat de communion la beauté de la vie en intégrant leur mission, celle de nous sensibiliser à l'existence de l'enfant dès sa création, sous la lumière et les œuvres du Seigneur, et rassembler ainsi les acteurs qui protègent la vie et donnent de l'espérance aux familles. Nous avons goûté à la multitude de grâces déversées au fil du temps, aussi bien pour les personnes accompagnées que pour les accompagnants. Alors, le cadre qui nous installait était propice à l'éveil de notre sensibilité dans l'approche de la mort périnatale, ou toute situation l'y prédisposant. Oui, comme précédemment cité, nous avons pu découvrir ou redécouvrir le sanctuaire de Montlijon. Situé dans le diocèse de Sèze, dans l'Orne, au cœur du parc naturel du Perche, le sanctuaire Notre-Dame de Montlijon est le centre mondial de prière pour les défunts. C'est un lieu de pèlerinage créé à la fin du XIXe siècle, à l'initiative de l'abbé Paul-Joseph Buguet, un curé de campagne qui accueillait toute l'année de nombreux pèlerins. Depuis, des milliers d'entre eux et du monde entier viennent chaque année s'y recueillir, y chercher consolation, réconfort et espérance. Plus particulièrement, ils peuvent confier leurs défunts à Notre-Dame Libératrice. C'est grâce à l'intuition spirituelle de l'abbé Buguet, à l'origine de cette œuvre, que celle-ci devient une œuvre de prière pour les défunts et les âmes des purgatoires. En effet, le pèlerin ou visiteur est accueilli dans la basilique par l'immense statue de Notre-Dame Libératrice, œuvre du sculpteur italien Giulio Tadolini. Haut de plus de 3 mètres, le groupe représente la Vierge Marie portant dans ses bras l'enfant Jésus. À ses pieds, 2 personnages féminins symbolisant une seule et même âme. Celle de gauche est encore en purgatoire, enchaînée par les liens du péché. Celle de droite est accueillie dans la gloire par l'enfant Jésus qui la couronne. Ce ministère de compassion, d'écoute et de consolation auprès de toutes les personnes frappées par le deuil, peut également toucher le deuil des tout-petits. Dans la basilique même, une chapelle est consacrée spécialement à Notre-Dame des tout-petits défunts. chacun, chacune, peut venir y prier pour un enfant non né, et quelles qu'en soient les raisons, avortement, fausse couche, grossesse extra-utérine, interruption médicale de grossesse. Montlignon nous invite à prier pour un enfant non né. Chaque tout-petit a été créé par Dieu. Dieu le connaît et l'aime depuis sa conception. Comme nous, il est appelé à vivre près de lui, à chanter ses louanges, à vivre pleinement de son amour. Dans la chapelle Notre-Dame des tout-petits défunts, vous pouvez venir prier pour un enfant non né et le déposer dans les bras de Notre-Dame des tout-petits défunts. Chaque premier mardi du mois, à la basilique même, une messe est célébrée pour les enfants qui n'ont pas vu le jour et les petits-enfants morts sans baptême. Il est possible d'y ajouter une attention particulière, in situ ou via le site, en remplissant le formulaire de contact et en sélectionnant, tout simplement, intention de prière. Elle sera alors remise au célébrant pour la messe suivante, pour les tout-petits défunts. Par ailleurs, chaque maman, chaque papa ou un proche qui le souhaite peut inscrire ce tout-petit défunt et le confier à la prière et à la messe perpétuelle de la Fraternité Notre-Dame de Montlignon. Personnellement, j'ai pu finaliser ces journées de rencontres en parcourant le chemin de consolation, chemin proposé par le sanctuaire en partenariat avec la Fraternité Mère de Miséricorde. Ce parcours est destiné aux personnes qui n'ont pu accueillir l'enfant qu'elles avaient conçu. Il ouvre les parents, la famille ou les proches à la miséricorde divine afin d'être pacifiés, consolés et relevés par l'amour de Jésus Sauveur. Alors, le chemin de consolation est un parcours de prière pour les enfants qui n'ont pas vu le jour. Devant chaque station, nous sommes invités à lire d'abord l'évangile situé sur le panneau, puis la méditation proposée dans le carnet qui nous est remis et à terminer par un temps de silence et de recueillement. Nous pouvons également le télécharger et le méditer chez nous, en union de prière avec la Fraternité de Montlignon. Enfin, un service d'écoute est également proposé au sanctuaire ou par les mères de miséricorde. Revenons maintenant à ces moments fraternels des 40 ans de mère de miséricorde. J'ai eu la joie d'échanger et d'écouter Laetitia dans son chemin de guérison. Dans sa peine, la grâce lui a été offerte de donner naissance à son livre, fruit d'une gestation de labeur et de prière. Le titre « Ne laisse pas les ténèbres te parler » de Laetitia de Calbiac aux éditions des Béatitudes. Ce sont des paroles de vie et de consolation pour les femmes ayant perdu un enfant dans leur sein. Laetitia, notre invitée du jour, vient nous témoigner, à travers son enregistrement, combien elle a été touchée par la perte de son enfant et des circonstances de l'envolée de son petit parti au ciel. Elle avait alors 17 ans. Elle est dorénavant mariée, mère de famille. Alors oui, Laetitia, que de larmes ont coulé sur votre visage et que d'encre déversée sur ces feuilles blanches pour nous partager le drame de l'avortement. À la lecture de votre livre, j'apprécie la beauté de votre chemin spirituel et l'ouverture au monde et à toute personne affligée par le drame de la perte d'un enfant. Vous concernant, en milieu de lecture de votre ouvrage, je mesure la progression de votre délivrance. Vous commenciez par « Je n'avais pas encore 17 ans quand j'ai connu cette angoisse » qui pourtant aurait dû être la plus grande joie de ma vie. Je voyais malheureusement cet affreux dilemme, le sentiment que la vie est sacrée et la conviction que je ne pouvais pas accueillir cette vie du fait de mon âge, de cette relation sentimentale si récente. Vous aviez aussi peur de la réaction de votre entourage, peur du regard des autres. Trop jeune, oui, et du coup, trop difficile de réfléchir, de comprendre vraiment ce qu'il se passait. Et pourtant, dans vos entrailles, vous sentiez que cet enfant était le fruit d'un amour naissant, sacré dans votre cœur. Et puis, toutes ces périodes où vous vous êtes senti si coupable et envahi par ces pensées de condamnation, quel tiraillement dans votre âme, votre esprit et votre chair. Vos mots, M-A-U-X, qui s'exprimaient dans vos mots, M-O-T-S, et vos paroles inspirantes. C'est alors, ou plutôt, c'est ainsi que vous avez intégré un chemin de guérison, difficile, mais guidé. Et ce chemin, vous l'avez fait, grâce à votre courage, dans une voie essentiellement spirituelle, en particulier dans votre chemin de communion, pas à pas, avec le Christ. Vous avez pu offrir vos prières dans le secret de votre âme meurtrie. Et puis tous ces soutiens dont vous avez bénéficié, entre autres, ceux de Mère de Miséricorde. Chemin de fruits et de grâce que nos auditeurs pourront retrouver dans votre livre. Vous nous dites combien il est important de prier maintenant pour les femmes ayant avorté, mais aussi pour leurs enfants. Par les paroles de vie, de consolation et de libération, que toutes ces femmes qui peinent sous le fardeau de l'avortement puissent rencontrer le Christ. Dans votre livre, en tout instant de notre vie, vous nous rappelez, Laetitia, l'importance de prier dans l'amour pour que la vie soit accueillie comme un don. Mais aussi, faire ainsi confiance en l'amour et l'immense miséricorde de Dieu en toutes circonstances. Merci encore, Laetitia, d'être parmi nous aujourd'hui pour témoigner de votre histoire, de votre chemin de guérison, notamment spirituel. Merci pour le partage de votre livre, de votre foi et de votre attachement à l'association Mère de Miséricorde qui aide les femmes en détresse ou blessées dans leur maternité. Merci aussi pour tous les témoignages illustrant vos propos et dire combien le Seigneur a le pouvoir de guérir et de redonner de l'espérance. Encore merci aussi à Mère de Miséricorde pour tous ces temps d'enseignement, de partage et d'activité offerts durant ce bel anniversaire. Nous avons apprécié la présence du village des associations engagées pour la vie et dont nous aurons l'occasion de parler au décours d'une autre émission. Enfin, que de grâces reçues dans la vénération des reliques de Jean-Paul II et l'écoute précieuse des témoins venus raconter leur parcours de résurrection et ainsi nourrir la confiance et l'espérance. Voilà, nous allons maintenant écouter pleinement Laetitia dans son histoire et l'écriture de son livre. L'histoire d'une femme blessée, mais renée de Dieu. Je vous en prie, Laetitia.
La femme qui a écrit ce livre, ne laisse pas les ténèbres te parler, c'est à la fois moi et plus moi. Déjà en 2014, je l'écrivais en me rappelant de ces nombreuses années de combat que j'ai vécues. Je ne dirais pas menées, car elles étaient plutôt subies. Oui, toutes ces années pour accueillir le pardon de Dieu. Être pleinement pacifiée malgré l'acte irréversible que j'avais posé alors que j'avais à peine 17 ans. L'avortement. Cela a été un vrai combat pour croire profondément que Dieu m'aimait malgré cela, que c'était possible. Cela a été un long chemin. Le repentir passe par des angoisses folles de voir ce que l'on a fait, que l'on regrette, mais qui nous semble tout aussi irréversible qu'impardonnable. On se dit qu'il est trop tard. On a tué un enfant. On a tué Dieu. Notre petit est mort. Et sans nous en rendre compte, on se punit et on voudrait être à ses côtés, dans la mort. On ne ferme pas la porte à Dieu. On crie vers lui. Mais on souffre de ne pas pouvoir y croire pour nous-mêmes. Même si la miséricorde nous semble le mot qui définit le mieux notre Père des cieux, Jésus au Golgotha. L'Église, à travers ses prêtres, ses membres tels que Mère de Miséricorde, sont des pierres de salut, rien de moins. La vie en Église nous sauve. Mais c'est long parfois de croire pleinement, le temps que nous quittions notre robe de tristesse, du deuil de cet enfant, que nous soyons fortifiés dans la foi, que nous nous nourrissions du lait et du miel gratuit du Seigneur, que sont les sacrements. Bref, que l'Esprit Saint fasse la vérité en nous, et que nous accueillions cette vérité qui n'est qu'amour et miséricorde de Dieu envers nous, femmes qui avons pu avorter, mais qui sommes tellement aimées de Dieu, et que Dieu veut voir tout près de lui au ciel. Alors je le dis fermement, je crois que notre combat à nous, femmes qui avons avorté, est vraiment d'accueillir la miséricorde pour nous, son plein pardon, de croire que ce ciel, cette vie en Dieu, est pour nous aussi. Finalement, de croire véritablement dans notre chair, dans tout notre être, que Dieu est avec nous. L'Église donne la vie de Dieu et Dieu nous veut vivantes. Il nous donnera de lui remettre dans un abandon de confiance cet enfant ou ses enfants morts dans notre sein de mère et de croire que ces petits sont bien au ciel, qu'ils nous aiment et intercèdent tellement pour que nous soyons en paix. Ces petits enfants nous aiment de l'amour de Dieu. Leur vie continue au ciel. Le fait d'être dans la souffrance face à ce drame vécu, c'est bien la preuve que nous sommes déjà du côté de Dieu. Celui qui commet le mal sans en prendre conscience ou sans le regretter n'est pas encore rené de Dieu. Mais vous, femmes et hommes aussi, qui regrettez, c'est bien la preuve que vous êtes enfants de Dieu, que vous êtes déjà avec Dieu et que Dieu est avec vous. Nous le serons pleinement au ciel, mais c'est dès ici-bas que Dieu veut que nous vivions, libérés et heureux. Ce livre reprend toutes les pensées ou fausses croyances très négatives, accusatrices, qu'une femme qui a avorté peut vivre. Il trace un chemin de foi possible avec Dieu pour en sortir, grâce à des citations de la parole de Dieu. Il y a aussi à la fin du livre des témoignages de femmes ou de couples ayant vécu cette blessure et des prières ou textes qui sont proposés comme une aide supplémentaire. J'aurais envie de conclure en m'adressant à toutes celles et tous ceux qui peinent à se croire pardonnables et pardonnés. Dieu est comme une mère, comme une maman, qui voit son enfant ne pas la croire quand elle lui dit qu'elle l'aime, malgré une erreur que l'enfant a pu commettre et dont il n'est pas fier. C'est une immense souffrance pour cette maman. Cela lui fait encore plus mal que la bêtise commise. Son enfant rejette son amour parce qu'il ne s'aime pas lui-même et qu'il aurait voulu être parfait. Mais seul Dieu est parfait. Et nous sommes tous comme ces petits-enfants pour le bon Dieu. Eh bien, Dieu aussi n'attend qu'une chose, c'est que nous nous laissions aimer par lui, que nous croyons qu'il nous aime quoi que nous ayons fait. Le péché, même celui qui nous semble le pire, Dieu veut nous en libérer par son pardon. Nous avons un seul chemin à suivre pour cela, celui de l'accueillir. En fait, ce chemin peut être très difficile, mais ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas ou qu'il ne nous aime plus. C'est souvent parce que nous n'arrivons pas à nous pardonner, comme l'histoire de ce petit enfant qui ne croit pas que sa mère peut l'aimer. Avec le soutien des personnes bienveillantes et priantes, nous pouvons vivre un chemin de pacification. Mère de Miséricorde est un de ces lieux, prêt à écouter notre souffrance. Il ne faut pas rester seul. Alors, si je reviens en arrière sur mon histoire, je me pose cette question. Comment se fait-il que j'ai avorté? Moi qui aimais tant les petits bébés, qui étais attirée comme un aimant par les nourrissons. Je me souviens encore des jumelles dont ma tante avait accouché. Quelle joie! Je me rappelle de l'émerveillement que j'avais éprouvé devant leurs si jolis petits pieds. Alors, cette interruption dit volontaire de grossesse. Peut-on dire que je l'ai vraiment voulu? Bien sûr que non. J'aurais dû me dire que je pourrais assumer le fruit de cet amour qui se manifestait par surprise, que Dieu me donnerait la grâce, faire confiance. Celui que j'aimais était plus âgé que moi, et ma confiance, je lui avais naturellement donnée en même temps que mon amour naissant. Pour moi, il était l'homme de ma vie. Mais nous étions jeunes et bien inconscients. Lui pensait qu'on ne tombait pas enceinte comme ça, si facilement. Je me suis laissée porter par une confiance totale, naïvement. Je manquais de réflexion, de maturité et d'éducation concernant une relation amoureuse à mon âge. Et d'un autre côté, j'avais rencontré l'amour et une forte présence qui me manquait. Alors très vite, par la suite, alors que nous étions revus, j'ai commencé à vivre dans l'angoisse tandis que j'attendais le retour de mon cycle. J'ai fini par faire un test de grossesse qui s'est avéré négatif, car sans doute fait trop tôt. Puis encore une attente, j'ai dû refaire un test et là, il était positif. J'étais minée, inquiète et très seule, puisque je n'en avais parlé à personne, ni famille, ni amis. Cela m'arrivait de pleurer en classe, en plein cours de première. J'avais l'impression d'être dans une voie sans issue. Je n'avais pas 17 ans, j'étais encore lycéenne. Je pensais que je n'avais pas le droit, et cela me faisait très peur. Après avoir rencontré le Seigneur, j'ai réalisé que j'avais eu peur du regard des autres. Terrible prise de conscience. En même temps, si j'analyse avec recul mon sentiment de peur, j'étais aussi déjà tétanisée à l'idée de ce qui allait se passer, l'avortement, qui me paraissait la seule issue possible. Ma mère, que nous sommes allés voir en apprenant cette nouvelle, nous a dit: Que voulez-vous faire? C'était assez neutre. Sans reproche, sans doute une manière de respecter notre choix. Il n'y a pas eu un mot de plus. J'ai été paniquée, décidée à avorter comme s'il fallait régler ce problème très vite, qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Comme j'aurais aimé avoir une réflexion plus étayée et être aidée par un vrai dialogue avec quelqu'un qui aurait pris le temps de m'aider à voir clair en moi, quelqu'un qui m'aurait permis de faire revenir le calme en moi, de réfléchir davantage, qui m'aurait aidé à espérer que c'était possible. Au lieu de cela, notre décision énoncée, les démarches ont été faites par ma mère pour aller à l'hôpital. J'étais encore mineure et mes parents étaient divorcés. Pauvre maman, ce ne devait pas non plus être très facile pour elle de porter tout cela toute seule. J'ai dû voir avec elle une psychologue. Mais c'était un entretien bien court. J'étais, je crois, comme furieuse lors de l'entretien quand la psychologue m'a demandé ce que je comptais faire. Avais-je le choix? Voilà ce que je pensais. Je crois avoir été très vite déconnectée des sentiments profonds de mon âme, si étouffée alors, face à cette émotion de panique qui me submergeait. Mes sentiments profonds, ces pensées, qui, tel un ruisseau, murmurait en moi, mais que je ne pouvais entendre. Pourtant, c'était le meilleur de moi, cette petite voix qui savait que la vie est sacrée. Oui, je n'ai pas pris le temps, face à ce sentiment de peur, de me demander « Quelle vie veux-tu avoir ? Celle d'une future maman qui aura avorté d'un de ses enfants ? ou celle d'une très jeune maman qui va essayer de faire face à sa responsabilité en croyant que son couple pourra y arriver et accueillir ce petit. J'aimais vraiment le papa de cet enfant, et c'était bien le fruit de notre amour naissant et sacré qui avait commencé sa vie en moi. Néanmoins, il ne faut pas idéaliser. La situation n'était pas facile. Le plus étonnant, déroutant, c'est que je ne me rappelle pas le jour où a eu lieu l'avortement. J'ai cherché des années après, questionné ma mère sur le nom de l'hôpital, appelé pour retrouver la date exacte. Mais ces archives étaient déjà passées à la trappe. Aujourd'hui, avec quelques repères, je sais que c'était sans doute au mois de mai, mais c'est tout. Les femmes qui se culpabilisent et souffrent intérieurement mettent du temps à s'autoriser à comprendre que dans cette douloureuse histoire, il y a deux victimes, voire bien plus. Leur enfant et elles-mêmes. Elles ont le droit de se dire « Je suis victime de ce geste terrible fait en mon sein. » Nous ne sommes pas des bourreaux. Nous sommes complètement sous le diktat d'une pensée du monde qui ne favorise pas le respect de la vie. Je n'ai pas eu d'échographie. Je me suis parfois demandé si cela n'aurait pas changé mon choix. Voir l'image d'un embryon. M'autoriser à nommer ce début de vie en moi un bébé. Mon bébé. Même ce mot qui aurait incarné, rendu concret mon enfant, a été balayé par ma peur. Voilà le début de mon histoire. L'histoire d'une jeune femme qui aurait tant aimé ne pas vivre cela. Commencer sa vie de mère ainsi. Mais la connaissance de l'amour de Dieu a en partie restauré ma dignité de femme et m'a consolée de toutes mes peines et m'a permis de retrouver la lumière grâce à son amour, grâce à la foi.
Merci encore Laetitia de votre très beau témoignage, si touchant, et de nous avoir partagé votre chemin qui mène vers la guérison et l'espérance. Nous allons maintenant terminer cette émission par une prière, la prière à Notre-Dame des tout-petits défunts. Nous tournons notre cœur et notre regard vers toi, Mère de la vie et Mère de consolation. Tu as reçu la mission de conduire à Jésus tous les enfants des hommes. Tu prends soin de chaque être humain que Dieu a créé par amour et qu'il confie à ta maternité. Accueille notre prière pour cet enfant. Vous le nommez, cet enfant qui n'a pas vu le jour. Il était connu et aimé par Dieu depuis sa conception. Qu'il puisse vivre dans ton royaume auprès du Christ qui a triomphé de la mort. Mère des tout-petits défunts, viens nous consoler dans notre peine et faire grandir en nous l'espérance de retrouver cet enfant un jour auprès de toi dans le ciel. Amen. Notre Dame libératrice, prie pour nous.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Maternité blessée avec le docteur Pascal Pissouchet qui recevait aujourd'hui le témoignage de Laetitia. Notre thème d'aujourd'hui, chemin de miséricorde au sanctuaire de Montlijon pour les 40 ans de Mère de miséricorde. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.